photographe congolais avec Alain Ring.
Bonsoir. Réforme des systèmes sécuritaires en RDC, 13 ONG congolaises et internationales affirment dans leur rapport publié hier à Kinshasa que de nombreux problèmes liés au conflit en RDC peuvent être imputés au dysfonctionnement de l'armée, de la police et des tribunaux. Sur quoi se basent ces ONG pour soutenir ces affirmations? Et que faut-il pour accélérer le processus de réforme des systèmes de sécurité et de justice en RDC? Nous recevons comme invité Maître Irène Essambo, présidente de la commission de réforme du secteur de sécurité pour le compte de la société civile de la RDC. Madame Essambo, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Jean Bouillou, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il est au cadre du PPRD. Monsieur Bouillou, bonsoir.
Bonsoir.
Jason Stern, analyste des questions liées à la sécurité. Il est directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Oussalama UP. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes déjà très nombreux comme d'habitude à nous envoyer vos réactions. Honorable Odiane et Paulin de Kisangani en province orientale, aucun pays au monde ne peut se développer avec une armée soumise à plusieurs commandements. Il faut une armée disciplinée, hiérarchisée pour protéger les frontières et les personnes avec leurs biens. Franck de Béni au Nord Kivu, le manque de volonté politique est la cause de tous les retards des réformes. Les autorités n'ont-elles pas peur d'être rattrapées par leurs propres réformes? Que des violations n'a-t-on pas vues pendant la rébellion? Ces réformes ne sont pas pour ce mandat. Nous sommes mardi 17 avril 2012. Bonsoir une fois de plus chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
De nombreux problèmes liés au conflit au pays peuvent être imputés au dysfonctionnement de l'armée, de la police et des tribunaux, ont indiqué hier à Kinshasa 13 organisations congolaises et internationales impliquées dans le processus de réforme du secteur de sécurité. Lors de la présentation de leur rapport sur la réforme de l'armée, de la police et des services de renseignement et de la justice, ces ONG ont déploré le fait que le gouvernement n'a toujours pas entrepris des actions concrètes pour réformer ces services si importants. Quelques éléments de ce rapport avec vous, Michel Kifindangoy.
7 ans après le lancement du processus des réformes du secteur de sécurité, le bilan s'avère négatif, constate la société civile congolaise. Dans leur rapport intitulé « RDC prendre position sur la réforme du secteur de sécurité », ces ONG parmi lesquelles l'Azado ont démontré que non seulement l'armée n'assure pas la sécurité, mais s'en prend aussi à la population. Pour ces ONG impliquées dans la réforme de l'armée, de la police, des services de renseignement et de la justice, la communauté internationale a continué à soutenir le gouvernement sans pour autant obtenir des résultats. Seule la réforme de la police connaît des avancées plus ou moins satisfaisantes, ont reconnu ces ONG. Pour le président de la réforme du secteur des sécurités, l'instabilité à l'est de la RDC et l'impunité au pays sont dues au manque d'une réforme véritable de l'armée et de la justice. Maître Irène Essambo invite donc le nouveau gouvernement à saisir l'opportunité pour recentrer son action sur la mise en œuvre d'une réforme de sécurité effective et durable en vue de protéger la population civile de la RDC.
Merci Michel Kifindangoy. Maître Irène Essambo, vous êtes présidente de la commission de réforme du secteur de sécurité pour le compte de la société civile de la RDC. En parcourant le rapport, on trouve certaines affirmations qui sont assez dures à l'endroit du gouvernement. Je prends un exemple, je cite, « De nombreux problèmes liés au conflit en RDC qui demeuraient apparemment insolubles peuvent être imputés à des dysfonctionnements de l'armée, de la police et des tribunaux. Le gouvernement congolais n'a toujours pas entrepris des actions concrètes pour réformer ces institutions cruciales. » Fin de citation. Sur quoi vous vous êtes basé, Maître Essambo, pour dresser ce rapport?
Oui, merci beaucoup. D'abord, je dois noter que les 13, moi je fais partie du Centre d'études sur la justice et la résolution 1325, en sigle CJR 1325, qui est une organisation de la société civile congolaise. Et ceux qui ont fait ces rapports, ce sont les ONG qui travaillent avec nous aussi dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. Et sur quoi nous nous sommes basés? Tenez, la réforme du secteur de sécurité a été décidée depuis le dialogue intercongolais. Et depuis ce temps-là, nous étions pendant la guerre et c'était des démarches pour que l'on mette fin à la guerre. Et l'une des choses sur laquelle tous les dialogueurs s'étaient accordés, c'était qu'il fallait former une seule armée, parce qu'au fait, il y avait l'armée du gouvernement et les groupes de rébellion qui venaient, le RCD, le MLC, et tous les autres groupes armés, y compris les entités comme le Mai Mai. Et il a été décidé que de toutes ces fractions-là, qu'on puisse prendre des gens qui viennent des différentes fractions pour qu'on forme une armée qui soit armée nationale de la RDC. Mais curieusement, nous avons eu les opérations comme le DDR, nous avons eu le CONADER. Tout ça, c'était pour nous aider à avoir un embryon sur lequel on pouvait se fonder afin de former l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé largement toutes ces étapes. Nous sommes maintenant à la troisième mandature et nous voyons qu'il n'y a rien. Et qu'est-ce qui bloque? Nous nous sommes posé beaucoup de questions. C'est comme ça que lors de nos investissements sur terrain, nous nous sommes rendus compte que, au-delà du fait qu'il y avait eu, à l'époque, le pays avait connu plusieurs fractions, mais aujourd'hui là, nous sommes dans une étape déjà décidée par tout le monde pour qu'il y ait une armée, et c'est de la charge et de la responsabilité du gouvernement de la RDC. Mais curieusement, les gouvernements traînent les pas pour nous donner une armée convaincante. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour cela que vous avez vu, même les autres ont parlé du fait qu'il n'y a pas d'armée, les autres ont dit qu'il y a une armée, mais qui est très faible. Mais quand nous regardons la position de la RDC, la priorité des priorités, c'était de doter le pays d'une armée qui convainc. Comme ça, ceux qui viennent nous troubler, ceux qui viennent des différentes frontières pour troubler la quiétude du peuple congolais, auraient pu avoir peur. Parce que c'est disant que c'est un pays qui est doté d'une armée. Mais pourquoi ça traîne? C'est parce que ce n'est pas une priorité des priorités aux yeux du gouvernement.
Alors, si ce n'est pas la priorité des priorités, à vous comprendre, Maître Sambo, c'est qu'il y a absence de volonté politique.
Oui, je peux dire en quelque sorte que la volonté, bien que ça ait été manifesté théoriquement, pour dire que nous voulons former une armée, mais cette volonté ne s'était pas suivie dans le fait. Parce qu'une chose est de faire une déclaration, de vouloir réformer et créer une armée républicaine à la taille de la RDC. Une autre est de mettre tous les moyens nécessaires pour que cette armée-là puisse exister. Mais aujourd'hui, nous sommes restés sur le plan des déclarations. Ce que nous, société civile, nous voulons, c'est de voir du concret, voir le pays être doté d'une armée qui va convaincre.
Maître Sambo, les recommandations, on les aborde dans la deuxième partie de cette émission. Est-ce qu'on pourrait dire que ce rapport consacre l'échec du processus de réforme des secteurs de la sécurité et de la justice en RDC?
Nous ne voulons pas parler en termes d'échec, d'autant plus que notre démarche faisait une interpellation. C'est-à-dire que nous sommes conscients que la réforme du secteur de sécurité, c'est tout un processus. Mais la société civile a l'obligation de rappeler tout le monde à l'ordre pour peut-être déveiller l'attention pour que cela marche. Et nous nous sommes dit, de là où nous sommes venus, jusque là où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Et nous avons découvert qu'il y a beaucoup de faiblesses. Et c'est pour cela que nous voulons interpeller le gouvernement et le bailleur de fonds qui donne leurs appuis par rapport à cette réforme, y compris nous-mêmes, société civile. Parce que nous, cette armée-là, c'est l'armée congolaise. Et nous devons aussi nous impliquer dans cette réforme afin que ça puisse marcher. Donc notre démarche, c'est d'interpeller, mais pas de déclarer qu'il y a échec comme pour dire tout est fini. Non, nous espérons qu'on peut encore faire quelque chose.
Avant de donner la parole à Maître Jean Bouillou, à Maître Sambo, juste un petit extrait encore de ce rapport. Je cite, les personnes haut placées qui au sein du gouvernement et de l'armée sont responsables des réformes continuent de profiter de l'armée actuelle en se servant sur les salaires des troupes, en prélevant des pots de vin, en prenant part à l'exploitation ou au commerce illégal des minerais, ou encore en rackettant les gens en échange d'une protection. C'est assez dur aussi ça à avaler. Maître Sambo.
Oui.
Oui, je disais que le paragraphe que je viens de lire, qui indexe clairement les responsables des réformes qui continuent de profiter de l'armée actuelle en se servant sur les salaires des troupes, en prélevant des pots de vin, en prenant part à l'exploitation au commerce illégal des minerais ou encore en raquettant les gens en échange d'une protection, c'est une affirmation dure quand même à avaler, disais-je.
Oui, en fait, je peux vous dire que ce sont là les faits que nous avons découverts. En fait, je vais parler des faits qui ont été à la base de cette étude, parce que CGR 1325 n'a pas été directement à l'étude, mais nous avons reçu l'étude, pour les drafts du moins, pour critiquer. Et ceux qui ont été sur terrain ont découvert que parmi ceux qui bloquent, ou peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui la réforme de l'armée traîne les pas, il y a toute cette question-là des minerais, parce qu'il y en a qui trouvent un intérêt par rapport à la faiblesse de l'armée afin de continuer à faire ces commerces illégaux de minerais. Et ça, c'est quelque chose que nous avons déploré, et nous avons trouvé qu'il y a un lien vraiment très étroit entre la réforme de l'armée et ces commerces illicites, et nous avons dénoncé cela. Parce que la réforme, c'est par rapport à la sécurité, par rapport à ce que la population a toujours réclamé, la sécurité, afin que nous puissions décoller. Mais aujourd'hui, il y en a qui trouvent leur compte par rapport à la faiblesse de l'armée et continuent à extraire de manière illégale le matière première et en profiter. Et ça, c'est vraiment déplorable pour notre pays.
Merci, Maître Sambo. On vous garde tout au long de cette émission. Maître Jean Bouillou, vous êtes ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, également au cadre du PPRD. Comment vous accueillez ce rapport? Est-ce du déjà entendu? Est-ce nouveau? Quelle est votre réaction?
Oui, merci, cher ami. Il faut bien ajouter que je suis aussi le vice-président de la Commission défense et sécurité du Parlement sortant.
Voilà,
sortant. Pour dire que, en lisant ce rapport, je trouve un déséquilibre réel entre les nombreuses affirmations qui y sont faites et la conclusion très faible. On affirme des choses extrêmement graves, mais quand vous arrivez à la conclusion, on dit, le rapport recommande notamment les mesures suivantes. 1. Au gouvernement congolais, réaffirmer au plus haut niveau l'engagement politique en faveur d'une réforme du secteur de la sécurité. Faire de la réforme de l'armée une priorité politique du nouveau gouvernement. Exclure des postes de responsabilité des individus qui entravent la réforme. Et avec les donateurs Nations Unies, instaurer un organe de coordination efficace dédié à la réforme de l'armée. Ensuite, à la communauté internationale, il faut lancer un forum de haut niveau sur la réforme de l'armée, et puis aux Nations Unies, étendre les sanctions de l'ONU aux individus qui entravent la réforme, et puis habiliter la MONUSCO à soutenir la réforme militaire. La question que je me pose, qui a commandité ce rapport? Qui l'a commandité? Parce que la conclusion est bizarre. Nous sommes en pleine réforme de l'armée et de la police, et ce travail est fait au Parlement avec l'appui, justement, de la communauté étrangère, la communauté internationale. Je suis étonné que le rapport ne fait nullement état de tous les efforts qui ont été faits au niveau de l'Assemblée nationale pour arriver à pouvoir mettre en place un statut du militaire congolais et la structure d'organisation, la structure organique de l'armée. C'est des efforts énormes. Le gouvernement a mobilisé ses experts, la communauté internationale, l'Union européenne, le Parlement a mobilisé ses experts, et nous avons travaillé pendant 2 ans pour nous mettre d'accord sur le statut du militaire et nous mettre d'accord sur la structuration de la nouvelle armée. Ce travail, compte tenu du temps et des interruptions, n'a pas été finalisé, mais il est en cours, il est dans les mains de la nouvelle assemblée. Mais le rapport ne fait pas état de tout cet effort qui est fait par le gouvernement en vue d'avoir une loi, parce que la réforme, c'est d'abord la loi, c'est d'abord disons, ce rempart sur lequel tout soldat, tout citoyen peut invoquer son droit.
Mais Maître Mbouyou, depuis le dialogue intercongolais jusqu'à ce jour, ça fait près de 10 ans qu'on attend que ce processus titube, tâtonne, boite, ce n'est quand même pas trop.
D'abord, merci cher ami, il faut d'abord réaffirmer et réaffirmer que l'armée n'est pas un domaine où on amène tout le monde. L'armée, c'est la souveraineté, le domaine de souveraineté par excellence. Il ne faut pas que n'importe qui vienne fourrer son nez dans l'affaire de votre armée, c'est-à-dire de notre armée. C'est une précaution nécessaire. Ensuite, l'armée n'est pas une affaire de néophytes. La réforme de l'armée est une question qui est liée aussi à la stratégie militaire du pays. On ne peut dès lors pas comprendre qu'on veut que toutes les sociétés civiles, comme d'ailleurs nous avons discuté les lois sur l'armée, toutes les sociétés civiles des provinces étaient présentes en train chacun d'objecter, d'orienter. Je me disais, mais quelle armée nous voulons former? Quelle police, mon Dieu? Donc, à mon avis, le processus aura été long, mais je ne vois pas quelqu'un qui l'a entravé. Lors des discussions, d'ailleurs, il y avait des colonels, il y avait des généraux qui étaient de loin plus positifs que nous, qui nous éclairait. Et la société civile, elle était non seulement représentée au niveau national, même des délégués des provinces sont venus siéger en permanence avec nous, et au sein du Parlement, et en dehors du Parlement. Alors, moi je crois que la volonté est là.
Peut-être pas suffisante.
Mais non, elle est là. Il faut commencer par la loi. Je dois reconnaître aussi qu'au sein du Parlement, ce n'était pas toujours, au regard des députés, une question prioritaire. Ça, on peut le dire. Mais cela n'est pas le fait des autorités qui n'étaient pas membres du Parlement. C'est le fait des Congolais. Parce que ce n'était pas, oui, l'armée, la police, ce n'était pas leur priorité. C'est ainsi qu'on n'a pas finalisé cette loi.
Maître Mbouyou, un autre extrait de ce rapport. L'investissement de la communauté internationale en RDC a conduit à des médiocres résultats. De nombreux groupes armés envoient des milliers d'enfants au combat. Les femmes et les enfants continuent de souffrir de la violence. Malgré les efforts que vous avez évoqués ici de la part du gouvernement, on a à comprendre le rapport, l'impression que la communauté internationale a jeté son argent par la fenêtre.
Bon, d'abord, je suis surpris par l'affirmation du rapport que la communauté internationale a donné 14 milliards les 5 dernières années. Sincèrement, j'étudie la structure du budget, puisque chaque année au Parlement on y revient. Je ne sais pas à quel niveau cet argent est injecté. D'autant plus que, depuis de nombreuses années, la communauté internationale et les ONG extérieures et même d'autres structures ont l'habitude d'amener l'argent et de le gérer eux-mêmes. On ne donne plus depuis de nombreuses années de l'argent au gouvernement congolais pour le gérer. Alors à partir de ce moment-là, je ne sais pas vraiment à quel niveau on peut dire, affirmer que 14 milliards ont été dépensés pour la réforme de l'armée. Bon, je suis pas militaire, hein, mais bon, je sais pas où on a mis cet argent. Mais d'un autre côté, les ONG ont ce défaut de faire des affirmations fortes, peut-être pour énerver les politiciens. Mais je crois que il y a eu énormément d'efforts. Moi, je vis à l'intérieur. Depuis 6 mois, je vis à l'intérieur. Je suis en contact avec les policiers par-ci par-là, les militaires par-ci par-là. Ce n'est pas du tout le Congo d'il y a 15, 20, 30 ans. C'est tout autre Congo. Vous allez sur des milliers de kilomètres, il n'y a pas de militaires qui vous emmènent, il n'y a pas de policiers qui vous dérangent. Et tout ça, on devrait quand même l'amener à la surface.
Mais maître, avant de donner la parole à Jason Stern, juste en un mot, qu'est-ce que ce rapport a de positif d'après vous?
En fait, ce rapport, il redit ce que tout le monde dit tous les jours, puisque par la faiblesse de sa conclusion, on ne sait pas ce qu'on a voulu en faire. Donc, il a de positif parce qu'il rappelle ce qui est connu, mais en titillant sur certains détails, en aggravant des choses, mais à la conclusion, on revient à des choses que nous lui disons tous les jours et qui sont en cours, justement, d'examen.
Jason Stern, bonsoir. Jason Stern. Voilà, nous avons perdu Jason Stern, il est analyste des questions liées à la sécurité et directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Oussalama OP. Maître Irène Essambo, vous avez suivi Maître Mbouyou, quelle est votre réaction?
Oui, d'abord, je voudrais saluer Maître Mbouyou que je connais très bien et qui m'a donné cours à l'université de Lubumbashi. Je voudrais dire ceci. Heureusement qu'il reconnaît que le rapport est en train de dire tout ce que le peuple congolais ou tout ce que tout le monde décrit chaque jour. Là, je suis d'accord avec lui. Mais je vais dire une chose. Qui a commandité les Sud? Les Sud, c'est le peuple congolais. Ce sont les organisations congolaises qui travaillent au nom de la population dans le cadre de la société civile qui, au regard de ce qui se passe par rapport à l'insécurité, se sont dit et se sont initié cette étude. Bien sûr, il y a eu la collaboration de partenaires internationaux. Mais là, on ne peut pas me dire que dans ce qui s'est fait en rapport avec la réforme du secteur de sécurité, il n'y a pas de partenaire. D'ailleurs, Maître Mbou vient de déclarer lui-même tout de suite là que les partenaires sont aussi impliqués. C'est comme ça que les sociétés civiles de pays qui donnent l'argent à la RDC par rapport à la réforme du secteur de sécurité s'inquiètent aussi et voudraient voir clair sur l'argent que leurs contribuables donnent à leurs États et qui est amené au Congo pour appuyer la réforme. Ils voudraient connaître un peu à quoi a servi cet argent. Et c'est là ce qui a fait qu'on puisse travailler parce que nous avons une préoccupation en tant que Congolais pour nous dire que depuis qu'on a décrété la réforme du secteur de sécurité en général et de l'armée en particulier, nous ne voyons pas clair. Nous ne sentons pas réellement ce qui s'est fait. Et les autres au niveau de pays occidentaux aussi se sont posés la question de savoir, mais notre pays apporte toujours de l'appui à la réforme du secteur de sécurité en RDC et particulièrement à la réforme de l'armée. Merci. Mais au finish, nous ne savons pas à quoi sert cet argent. C'est comme ça qu'eux aussi, ils ont intérêt à connaître ce que l'argent qu'on amène ici est en train de produire comme effet. Et nous aussi, nous avons l'intérêt de savoir ce que notre gouvernement est en train de faire réellement. Merci. C'est vrai que je ne peux pas réunir aujourd'hui que le Parlement n'a pas fait quelque chose par rapport à cette réforme. Moi-même, là, j'ai contribué, j'étais au Parlement chaque fois, lorsqu'il y avait des discussions sur les lois du secteur sécuritaire, notamment la loi qui crée, qui concerne l'organisation et le fonctionnement des forces armées, l'organisation et le fonctionnement de la police, et même sur les statuts. Mais ça, c'est au niveau des lois, c'est là que nous sommes en train de nous poser des questions. Pourquoi depuis la fin du dialogue intercongolais, alors que la réforme a été officiellement ouverte vers les années 2003-2004,
mais
et
ça continue de traîner
en 2013.
Merci, Maître Sambo, je vous redonne la parole tout à l'heure. Jason Stone, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes analyste des questions liées à la sécurité et directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Ousalama OP. De votre point de vue d'analyste, quel bilan aujourd'hui vous pouvez dresser du processus de la réforme du secteur de sécurité et de la justice en RDC?
Bon, je pense qu'il faut dresser un bilan un peu nuancé parce que quand même, il faut constater qu'il y a eu des avancées, du progrès dans les années passées, dans le sens que, comme Maître Mbouyou l'a dit, on a une loi maintenant organique de l'armée, on a une loi organique de la police, statut de militaire aussi, va passer bientôt. On a des centres de formation qui sont maintenant actifs à Kananga et à Lefo, et à Likasi, un centre de formation de génie. Et ailleurs aussi dans le pays, nous avons un recensement de l'armée qui a fait descendre l'effectif de l'armée des 340 000 qui avait été annoncé au début de la transition. Maintenant, on compte à peu près 103 000 militaires. Donc, il y avait beaucoup de soldats fantômes qu'on a pu éliminer et ensuite aussi accroître la solde des autres militaires. Et ainsi de suite. Donc, je dirais qu'il y a quand même pas mal d'avancées. Malgré cela, ça c'est au niveau technique et malgré le fait qu'il y a un programme, comme Maître Mbouyou le dit très bien, en cours de réforme de l'armée, la réalité du terrain ici, surtout à l'Est, où il y a la guerre, est toujours très très dure pour la population. Donc je pense que dans tout cela, il faut tenir compte de la performance de l'armée sur terrain. Et là, malheureusement, souvent, on constate toujours qu'il y a beaucoup d'insécurité sur terrain, pas seulement perpétrée par les groupes armés non gouvernementaux, mais aussi par l'armée nationale elle-même, malheureusement. Donc, par exemple, dans le rapport, une statistique qui est citée, mais qui a aussi été citée dans les autres rapports, c'est que dans les sondages, les villageois se plaignent souvent que les FARDC eux-mêmes, c'est parmi les plus grandes sources d'insécurité ici à l'Est. Donc je pense qu'il y a des avancées. Moi-même, je vous parle de Goma, et ici je vois que les réformes ont eu un impact ici sur le terrain, vraiment. Mais malgré cela, il y a beaucoup à faire encore, surtout je dirais, par rapport à la volonté politique de mettre en place la discipline. D'ailleurs, le président lui-même l'a dit très bien ici, qu'on était ici à Goma, l'armée se base sur la discipline. Mais souvent, ce qu'on voit ici, surtout à l'Est, c'est qu'il y a encore beaucoup d'abus dans l'armée qui ne sont pas punis. Et la violence, donc, et des abus comme des viols, des meurtres. Mais aussi, je dirais, des abus du pouvoir des militaires. Il y a beaucoup d'affaires qui se font par les militaires partout dans le pays. Ce qui aussi, je pense, comme Maître Irène l'avait dit, ce qui sape un peu la morale des militaires et aussi l'efficacité de l'armée. Donc je dirais que c'est un bilan nuancé. Il y a des progrès effectivement qui se font, mais il y a aussi beaucoup à faire.
Il y a deux auditeurs pour vous, Jason Searles. Pierre de Bukavu Sud Kivu. Les militaires et les policiers sont à la base de beaucoup de conflits parce qu'ils sont au service du pouvoir et non de la population. Augustin Mwango de Kalima au Maniema. Je suis non seulement d'accord, mais surtout satisfait par le rapport de ces ONG qui tombent à point nommé et diagnostiquent objectivement les motivations des nombreux problèmes liés aux conflits dans notre pays. Mais la réforme du secteur sécuritaire dépend essentiellement de la volonté politique des tenants du pouvoir qui doivent y allouer un budget conséquent et éviter de le politiser, car l'armée, la police, l'ANR aussi bien que la justice de notre pays sont encore loin d'être républicaines à cause de leur attitude partisane. Réaction Jason Stern.
Je pense qu'effectivement on avait un problème maître, je pense c'est Irène on était dans un processus de unification de l'armée à partir de 2003, on avait intégration de tous les différents groupes rebelles au sein d'une armée. Alors, dans ce processus, il était difficile toujours de punir les gens qui étaient abusifs ou de punir les gens qui n'étaient pas compétents, dont il y avait pas mal aussi dans l'armée, seulement parce qu'il y avait la logique d'un plus quatre qui prévalait pendant la transition. Après la transition, très bien après, ici, surtout à l'Est, on entre dans une autre phase d'intégration, où on intègre maintenant tous les autres groupes qui restent ici à l'Est. On a vu plusieurs milliers des ex-CNDP, Pareco, ainsi de suite, qui ont été intégrés ici à l'Est. Le problème avec cela, c'est que quand quelqu'un... Souvent, ce sont la logique politique qui prévaut et pas la logique de la discipline. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait une infraction, il est souvent protégé par son ex-groupe armé. Si c'est l'ex-MLC ou l'ex-gouvernement ou l'ex-RCD, ou maintenant ex-CNDP. Donc, et si on le cible, on dit que non, lui est coupable. Les autres vont dire non, on y a été ciblé à cause de son appartenance ex-groupe armé. Donc je pense que ce que l'auditeur l'a dit par rapport à la nature partisane de l'armée, malheureusement, elle n'est pas encore sortie de cette étape. Je pense que c'est un défi, c'est un réel défi. Il ne faut pas prendre ça à la légère, mais en même temps, je pense qu'il est temps que comme le président lui-même l'a dit, d'ailleurs, je répète, que la discipline prévaut ici. Je pense que l'incident qu'il y a eu ici à l'Est pendant les quelques semaines passées, les défections qu'on a vues au sein de l'armée, c'est une bonne opportunité maintenant de voir comment les gens qui se sont rendus, parce que la plupart de ces soldats se sont rendus déjà, vont être traités par la justice militaire.
Maître Jean Bouillou, juste une brève réaction avant que l'on aborde la deuxième partie de cette émission, à suivre Jason Stern. Les progrès techniques contrastent malheureusement avec les réalités sur terrain.
Disons, les progrès techniques sont nécessaires d'abord parce qu'ils constituent le rempart pour tout le monde, mais aussi sur le terrain, le désordre n'est pas également étendu sur le territoire national. Hein. Il évoque beaucoup la question de l'Est, c'est-à-dire le Nord Kivu notamment, et la frontière de l'Est. Bon, c'est tout différent pour nous qui vivons dans d'autres provinces. Donc, c'est perçu par rapport à l'endroit où on se trouve. Mais on ne peut pas dire que c'est carrément généralisable et que c'est chaotique partout, non?
Alors, nous allons aborder directement la deuxième partie de cette émission. Que faut-il pour accélérer le processus de réforme des systèmes de sécurité et de justice en RDC? Maître Jean Bouillou, je vous redonne la parole, mais vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu pour vous.
Robert Mahomé de Bukavu au sud Kivu. Les affirmations des fixes ONG sont fondées. Cependant, penser à la réforme du système sécuritaire sans d'abord penser à l'amélioration des conditions de vie et même socio-professionnelles des agents de sécurité serait une peine perdue et serait alors comme si l'on tournoyait dans cette démarche.
Réaction, Maître Mbouillou.
Oui, je dirais que toutes ces affirmations ne sont pas nécessairement fondées. Il faut dire qu'il y a des choses que nous vivons qui sont nos réalités quotidiennes, mais il faut reconnaître aussi les efforts qui sont faits depuis un certain nombre d'années maintenant pour quitter cet état de choses, même si nous n'arrivons pas au résultat, disons, le plus souhaité. Mais n'oublions pas non plus qu'en matière de sécurité, il n'y a pas un pays, un seul pays au monde où on peut dire qu'ils sont totalement en sécurité. Non, il y a toujours dans chaque pays des éléments perturbateurs de la sécurité et il ne faut pas dire, penser que c'est seulement au Congo que cela arrive.
Alors que faut-il pour accélérer ce processus?
Pour accélérer ce processus, je pense qu'il est inévitable que nous puissions avoir d'abord la loi. Et ces lois qui ont été prises au niveau du Parlement, et je pense que Monsieur Jason... Jason Sir, qui a parlé tout à l'heure, a rappelé justement que ces lois ont été prises. Ces lois, quel est leur contenu? Parce que les gens ne les connaissent pas. On a voulu non seulement statuer sur comment la structure de l'armée doit se présenter, mais également quel est le statut d'un militaire. Comment il entre dans la carrière? Comment, quels sont ses droits et ses devoirs pendant la carrière et comment finit sa carrière. Ça remet en quelque sorte une sorte de statut de fonctionnaire à un militaire en lui rappelant qu'il est là, il est venu pour servir la nation comme militaire et que cela ne lui confère pas des droits supplémentaires pour qu'il trouve des raisons d'abuser de sa position. Alors, la loi va s'accompagner également, à mon avis, d'un renouvellement du personnel militaire. N'oublions pas que nous venons d'une armée qui a hérité d'une tradition coloniale d'oppression contre ses propres citoyens. Le militaire colonial a été formé, non pas pour défendre les frontières nationales, mais généralement pour aider le colonisateur à imposer sa présence. Et cette mentalité, malheureusement, n'a quitté ni l'armée ni la police, et nous nous en plaignons depuis des années. Et donc, une réforme est nécessaire, mais également un renouvellement de personnel pour qu'il y ait une nouvelle mentalité qui puisse habiter les citoyens. Et enfin, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait aussi une coopération de la population. Le peuple concerné doit connaître les droits et les limites de chaque militaire pour qu'il puisse ont besoin de se battre pour son droit.
Merci Maître Jean Bouillou. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, au cadre du PPRD, également vice-président de la commission défense et sécurité du Parlement sortant. Maître Irène Sambo, je vous redonne la parole tout à l'heure. Jason Stern, vous intervenez également après cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga pour vous.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolwezi au Katanga. Je pense que la plus grande difficulté dans l'aboutissement ou la réalisation de nos réformes, c'est que nous nous préoccupons beaucoup plus de textes, oubliant la redéfinition des missions, profils et l'encadrement des hommes qui animent les institutions y relatives.
Jason Stern, encore et toujours placer l'homme au centre de la réforme.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, et je suis tout à fait d'accord aussi que ce que Maître Mbouillou dit, c'est qu'il faut... Il faut tout d'abord regarder la loi. Si la loi, il y a beaucoup de lois qui sont déjà là sur papier, mais ils sont pas nécessairement appliquées. On a un code de conduite militaire qui est là depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de ces violations, de ces codes de conduite qui se passent tous les jours, mais sans souvent avoir une réaction. Donc je pense que, on peut avoir tout le progrès technique dans le monde possible, mais, si la volonté politique manque pour appliquer ce qui est sur papier, on ne va pas arriver très loin. Donc, néanmoins, je pense que il faut être constructif, il faut être positif, et il faut voir comment on peut aller en avant avec le gouvernement et avec les bailleurs de fonds pour reconstruire l'armée. Et je pense parmi les choses qu'il faut voir, je citerai deux choses seulement. C'est un, je pense qu'il faut repenser à la démobilisation de l'armée. On a une armée de 100 000 militaires. À l'époque de Mobutu, il y avait peut-être un quart de cela. Et je pense que et le fait qu'on a une aussi grande armée aussi pèse sur le budget de l'État. Donc il faut, une fois qu'on a stabilisé l'Est, déjà on pourrait penser à un autre processus de démobilisation. En même temps, il faut augmenter le solde des conditions de vie des militaires. Moi je me rappelle, je suis passé dans un camp de militaires ici récemment, j'ai parlé avec les femmes des militaires, et je me suis plaint que leurs hommes souvent sont coupables d'abus contre la population, et les femmes m'ont dit, mais on veut bien qu'ils aillent voler dans la population parce que on n'en a pas assez de nourriture ici, même pour nourrir nos enfants. Et les enfants dont ils parlaient, ils n'avaient même pas les vêtements, c'était vraiment assez triste. Et je pense, je sais qu'on vient d'une guerre, je sais que c'était assez dur, je sais que, on a déjà fait des pas en avant, mais il y a beaucoup à faire pour les mêmes militaires, pour améliorer les conditions de vie. Donc je dirais une chose, démobilisation, deux choses, améliorer les conditions de vie, et troisièmement, et je pense que ça c'est le plus important, c'est la justice. Il faut vraiment commencer à traduire en justice tous les abus, pas seulement les violations droits de l'homme, mais aussi des abus, des détournements de soldes, les abus de statut de militaire, dans le sens qu'ils abusent leur pouvoir pour faire les affaires privées. Ça, ce sont les trois axes que je mettrai les accents.
Alors, Jason Stern, il y a parmi les recommandations, le rapport invite la communauté internationale et les donateurs à lancer un forum de haut niveau sur la réforme du secteur de la sécurité en RDC, réunissant des acteurs congolais, régionaux et internationaux, afin de générer la volonté politique nécessaire pour cette réforme. Mais vous avez suivi tout à l'heure, Maître Mbouyou disait que les affaires d'une armée nationale, on ne peut pas ingérer, on ne peut pas faire participer tout le monde à ce genre d'affaires.
Oui, et je dirais, bon, je pense que ça dépend des conventions qui sont conclues entre le gouvernement et les différents bailleurs de fonds. La chose sur laquelle je vais insister, c'est que je pense qu'il y a aussi une certaine hypocrisie parmi les bailleurs de fonds. Ils se plaignent beaucoup par rapport à l'état de l'armée congolaise. Mais puis, ils ne viennent pas avec le paquet nécessaire. Ils viennent, ils disent que les Américains sont en train de former quelques bataillons. Quelques bataillons dans une armée de 100 000 personnes, c'est une goutte dans l'océan. Les Sud-Africains, les Belges, c'est un peu là. Ce sont des petits programmes de formation qu'ils sont en train de mettre en place. Mais les besoins sont beaucoup, beaucoup plus grands. Donc je pense que côté gouvernement, si on pouvait proposer, se mettre ouvert à s'engager avec les bailleurs de fonds d'une manière, je pense, plus consistante, mais aussi côté bailleurs de fonds, si on pourrait aussi se mettre beaucoup plus près. On ne peut pas critiquer l'armée congolaise et ensuite rien donner comme argent, comme appui à l'armée congolaise. Donc je pense des deux côtés, là, ça manque. Et en venant j'étais il y a quelques semaines à Washington et à Bruxelles, et c'était très clair de ce côté aussi là, que quand on parle de manque de volonté politique, aussi de ce côté-là, il y avait une manque de volonté politique. Donc je pense qu'il ne faut pas être hypocrite et seulement blâmer le gouvernement congolais, tout en privant le mouvement aussi d'un appui international.
Merci, Jason Stern. Vous êtes analyste des questions liées à la sécurité et directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Ousalama Oupé. Maître Irène Essambo, vous êtes présidente de la commission de réforme du secteur de sécurité pour le compte de la société civile en RDC. Parmi les recommandations au gouvernement congolais, je cite, vous dites, avec les donateurs et les Nations Unies, instaurer un organe de coordination efficace dédié à la réforme de l'armée. À ce niveau-là, à ce moment-là, que deviennent les autres partenaires? EPOL, ESSEC, qui contribuent déjà dans la réforme du secteur de la sécurité et de la justice.
Et en fait, lorsque nous parlons de la coordination, nous ne disons pas qu'on va exclure les autres partenaires qui sont déjà là, qui travaillent, et on reconnaît aussi leurs efforts pour nous aider à ce que l'armée et le secteur de sécurité en général puissent marcher dans notre pays. Mais ce que nous voulons, c'est dans le cadre toujours de stimuler les gouvernements à prendre son leadership. C'est comme ça que les rapports suggèrent qu'il y ait un forum de haut niveau qui regroupe tous les acteurs. Et je veux dire que ce n'est pas la première fois. Si j'ai bonne mémoire, en 2008 déjà, avant que l'on puisse installer l'organe des réformes de la police. Le gouvernement congolais avait organisé une table ronde qui avait eu lieu au grand hôtel de Kinshasa. Et là, il y avait la participation du gouvernement lui-même, de différents partenaires internationaux et la société civile, ainsi que les organes comme l'armée, la police, la justice, qui s'étaient retrouvés pour ensemble analyser. Et nous, nous avions pensé que avec cette table ronde, et d'ailleurs la table ronde avait fait des recommandations. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs recommandations qui n'ont pas été suivies. Parce que une chose est de recommander, mais après les ateliers, le problème c'est que lorsqu'on fait des rencontres comme une table ronde, comme forum, comme conférence, souvent on a l'habitude d'oublier les recommandations et de recommencer comme si c'était le début. L'une des recommandations de cette table ronde de 2008 était que le gouvernement congolais puisse créer une coordination qui engloberait tous les acteurs et tous les services de l'État qui sont concernés par la réforme du secteur de sécurité. Mais aujourd'hui, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, cette coordination n'existe pas. Le forum qui est recommandé dans la télé, c'est justement pour réveiller encore cette idée-là, pour dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire, comment faire? Parce qu'en fait, quand vous regardez bien, la réforme de l'armée, la réforme de la police, la réforme de la justice, et même celle des services de sécurité, je vais parler de services d'intelligence, se retrouvent quelque part. Il y a des points communs, il y a des choses qui demandent qu'on puisse les faire de manière concomitante.
Merci Maître Sambo. Maître Jean Bouyou, il faut déjà conclure, il nous reste moins de 3 minutes. Vous avez suivi Jason Stern dénoncer l'hypocrisie de certains bailleurs qui demandent une chose à la RDC mais qui ne lui donnent pas les moyens. Et peut-être, que faut-il pour que ce processus soit une priorité pour le Parlement, ce Parlement?
Merci à Jason, merci à Maître Irénée Sambo. Je me rappelle effectivement que nous avons siégé ensemble de la question de la réforme au niveau de l'Assemblée nationale. Merci d'apprendre que je t'ai donné cours. Voilà. Voilà. Ce que moi je souhaite dire en conclusion, ceci à l'intention de mes compatriotes, c'est de comprendre que les questions qui engagent l'armée, qui engagent la police nationale, qui engagent les services d'intelligence ou de sécurité de renseignement, ces questions doivent être gérées avant tout par nous-mêmes et trouver les moyens de régler les abus, trouver à travers nos analyses le moyen d'améliorer leur fonctionnement, le moyen de nourrir le policier, le militaire, l'agent de sécurité, le moyen de le discipliner, je suis tout à fait d'accord avec Jason, la sanction. Et ce ne doit pas être des questions que nous jetons dans des forums où chaque apprenti sorcier vient prétendre qu'il a à y dire. Et ça, je pense que nous avons contribué à fragiliser notre armée quand nous n'avons pas aidé à gérer ces questions de manière efficace, de manière secrète, confidentielle, qui soit à mesure de préserver notre souveraineté.
Merci Maître Mbouyou. Jason Stern, en guise de conclusion, qu'est-ce que les auditeurs et internautes qui nous suivent maintenant peuvent retenir?
Bon, je pense qu'il est bien de commencer un débat par rapport à la réforme de services de sécurité. Il y a beaucoup dans le rapport que j'ai apprécié. Je pense que je suis d'accord avec Mbouyou. Donc l'avenir du Congo dépend des Congolais, pas des étrangers comme moi d'ailleurs. Mais je pense surtout, et j'espère que le temps d'intégration de tous les différents groupes armés est en train de se conclure et on va en avant. Et ce qu'on va respecter au sein de l'armée, c'est les compétences des différents gens, qu'il y aura une méritocratie. Et pas les différents aspects partisans des différents composantes au sein de l'armée.
Merci.
Et que à cause de cela, il y aura plus de discipline au sein de l'armée. Mais tout cela va dépendre de la volonté du leadership du pays.
Merci Jason Stern. Maître Irénée Sambo, juste un mot pour conclure.
Oui, non, c'est ça. Merci beaucoup.
Je vais dire que c'est vrai que c'est une question de souveraineté, mais cette souveraineté-là, l'État doit le montrer en prenant le leadership, en étant un leader, en orientant tous les acteurs.
Merci monsieur et madame d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion à 4h15 heure de Kinshasa. Au revoir.